Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une équipe d'experts de l'OMS est arrivée ce matin en Chine, à Wuhan. Elle va enquêter sur l'origine du Covid-19 dans cette ville qui a été un temps le berceau de la pandémie. Dans ce journal, les objectifs de ces experts et le témoignage d'une romancière vivant à Wuhan, vivement critiquée par l'ultra-gauche nationaliste chinoise.
En France, l'exécutif doit trancher sur un couvre-feu national dès 18h. Réponse aujourd'hui alors que les étudiants passent leur partiel dans des conditions particulièrement difficiles.
La mort de Marielle de Sarnez, annoncée hier soir par François Bayrou, le président du Modem, était très proche de la députée centriste, nous l'entendrons.
Dans ce journal aussi, la mise en accusation de Donald Trump au Congrès, un deuxième impeachment historique.
Et puis nous irons en Centrafrique où des rebelles ont tenté d'approcher Bangui hier. Le souvenir de la guerre civile est ravivé. Ils devront rester en quarantaine pour 2 semaines avant de pouvoir travailler. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont arrivés ce matin en Chine à Wuhan, ville meurtrie par le Covid-19, ville départ a priori de la pandémie. L'équipe de l'OMS est chargée d'enquêter sur l'origine de ce coronavirus et cela va se faire de façon très encadrée, Jérémy Lanche.
Rien ou presque n'aura filtré sur le programme de la mission de l'OMS. Tout juste sait-on que les 10 scientifiques vont être placés à l'isolement pendant 2 semaines. Leur objectif, c'est de trouver comment le SARS-CoV-2 est passé de l'animal à l'homme. Et rien d'autre, dit Mike Ryan, c'est le responsable des programmes d'urgence à l'OMS.
Comprendre les origines d'une maladie, ça n'est pas trouver un coupable. Si c'était le cas, il faudrait blâmer le changement climatique ou toutes les décisions qu'on a prises depuis 30 ans, de l'urbanisation jusqu'à la gestion des forêts. Si vous cherchez des coupables, vous en trouverez partout. Ce que nous faisons, c'est de chercher des réponses qui pourront peut-être nous sauver plus tard. Laissez cette mission s'occuper de la science, pas de politique.
Difficile pourtant d'échapper à cette question, déjà parce que les chercheurs ne devraient utiliser que les données de leurs collègues chinois et pas tenter de repartir de zéro, aussi parce que Pékin laisse entendre que le virus serait apparu ailleurs qu'en Chine et que les scientifiques iraient enquêter dans d'autres pays. L'un des membres de l'équipe, l'Allemand Fabian Lenderts, estime que Wuhan est tout de même le meilleur point de départ. Ce médecin vétérinaire, qui a identifié les origines de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014, se dit presque sûr que les scientifiques découvriront ce qui s'est vraiment passé, même si cela risque de prendre du temps.
Alors l'OMS percera-t-elle le mystère de l'origine du virus? Question qu'a déjà posée Tara Schlegel à 4 spécialistes. Leurs réponses sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. En une également du site internet ce matin, un entretien très rare avec une romancière chinoise. Fang Fang fut peut-être la première à publier un ouvrage sur le confinement en Chine, un journal de quarantaine. Son livre, Wuhan, ville close, a été publié et apprécié dans plusieurs pays. Mais depuis, elle a reçu des menaces de mort en Chine. Conspuée, mise au ban, Fang Fang n'a pas le droit de parler. C'est par écrit qu'elle a donc pu échanger avec vous. Dominique André, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondante en Chine et vous signez cet entretien ce matin. Fang Fang sort de son silence pour témoigner et elle s'exprime, Dominique, notamment sur la visite des experts de l'OMS.
Oui, enquêter sur ce qui s'est passé pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette catastrophe, donner une explication au peuple, c'est absolument nécessaire. Voilà la réponse de Fang Fang sur l'arrivée des experts de l'OMS à Wuhan. Et dans cet entretien par écrit, Fang Fang se confie aussi sur sa vie. Aujourd'hui, je ne peux plus publier quoi que ce soit dans une revue ou un magazine, dit-elle. Mes romans ne peuvent plus paraître en Chine et il est impossible que je sois invitée à participer au moindre événement littéraire. Pour la romancière, de telles méthodes sont très proches de celles utilisées durant la révolution culturelle. À propos des attaques en ligne des ultranationalistes en Chine, elle dénonce une cyberviolence scandaleuse qui restera comme une honte dans l'histoire. L'écrivaine évoque aussi les traces laissées par le confinement total à Wuhan. C'est encore très lourd, dit-elle. La période la plus sombre a été au début de l'épidémie, mais Fang Fang dit aussi que les renforts de médecins l'ont rassurée et que au milieu et à la fin de l'épidémie, pandémie, la présence de nombreux volontaires a montré son efficacité. Un an après, pour l'écrivaine, la vie a repris à Wuhan, mais en apparence, la mentalité des gens a changé, ce qui est mon cas, dit-elle. Mais pour les familles des victimes, conclut Fanfan, les cicatrices resteront à vie.
Merci beaucoup Dominique André. Le témoignage de Fanfan, la chinoise que Pékin cherche à museler, et donc à retrouver sur franceculture.fr. Ce matin, notons par ailleurs que la Chine a déclaré son premier mort dû au Covid-19 depuis 8 mois, premier mort officiel. Le plateau de contamination est toujours haut en France concernant les contaminations au Covid-19. Encore plus de 23 000 nouveaux cas recensés hier. Alors quelles vont être les règles sanitaires en France pour les prochains jours, les prochaines semaines? Le Premier ministre doit donner une conférence de presse ce soir à 18h. L'exécutif le semble pour le moment privilégier un couvre-feu avancé de 20h à 18h pour de nombreux départements. En tout cas, un reconfinement a priori est écarté pour le moment, tout comme la fermeture des écoles. Les universités, en revanche, resteront fermées pour la plupart des étudiants. Pas de changement. Les étudiants qui passent actuellement leur partiel, situation difficile, comme vous l'avez constaté, Hakim Kasmi.
Antoine est en deuxième année de psychologie à l'université de Nancy. Il a dû suivre tous ses cours du premier semestre depuis sa petite chambre d'étudiant du Crous. Idem pour ses partiels, qu'il a dû passer en distanciel, derrière son écran d'ordinateur, en devant répondre à des QCM.
Une épreuve normale en présentiel, ça va durer 1 heure, 2 heures. Il y avait 20 questions à répondre en 30 minutes, c'était très serré comme timing. Vraiment, on a plus l'impression que les examens étaient faits pour empêcher les élèves de tricher que de vraiment pour voir si les élèves ont les connaissances.
Des conditions également loin d'être idylliques pour les candidats qui ont pu passer leurs épreuves en présentiel, comme Gaspard en deuxième année de géographie à Sorbonne Université, qui regrette le manque d'adaptation des enseignants au niveau des sujets.
C'est beaucoup plus difficile de suivre à distance et donc on s'est retrouvé au partiel comme une année classique, alors que ce n'était pas du tout une année classique.
Résultat, de nombreux étudiants, comme Marine, en troisième année d'orthophonie à l'université d'Amiens, craignent de voir leurs notes et leurs diplômes dévalués.
Je sais que c'est une grosse question pour les étudiants de se dire, est-ce que je ne vais pas avoir un diplôme en carton, du fait que pour certains, c'est en distanciel, donc on dit, ils ont leur fiche sous les yeux, donc c'est pas forcément un véritable partiel, on ne sait pas si c'est en vraie capacité. Et donc du coup, il y a cette question de légitimité qui revient quand même beaucoup. Et le problème de ne pas avoir eu du coup de cours en présentiel, ça empêche un petit peu cette vision du travail en commun, etc.
Face à cette situation, si les cours devaient encore durer en distanciel au second semestre, le nombre de décrocheurs et de redoublants risque de s'accroître encore considérablement.
Et je rappelle que ces derniers jours, deux étudiants ont fait des tentatives de suicide à Lyon. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, estimait hier qu'une partie des étudiants devait reprendre en présentiel à l'université au mois de février. Pendant ce temps, et pour essayer de sortir de la crise, cette année, en 2021, la vaccination se poursuit. 247 000 personnes vaccinées à ce jour en France, c'est 57 000 de plus en 24 heures. À partir de lundi prochain, un stade sera franchi avec la vaccination des plus de 75 ans hors EHPAD. À ce propos, ce matin, nos confrères de France Inter révèlent que l'assistance publique hôpitaux de Paris a décidé de réduire la vaccination de son personnel soignant, et ce pour que des doses du vaccin soient redirigées vers les personnes âgées de 75 ans et plus. C'est une leucémie qui l'a emportée. La députée centriste Marielle de Sarnez est morte hier à l'âge de 69 ans. Emmanuel Macron, le président, salue une combattante passionnée de l'Europe. Il perd, dit-il, une amie. Amie aussi et surtout de François Bayrou. Car celle qui était présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et vice-présidente du Modem a toujours évolué dans l'ombre de François Bayrou, Antoine Marette.
Effectivement, elle avait choisi de lier son destin politique à celui de François Bayrou. Cette militante giscardienne de la première heure, européenne convaincue, participe avec lui à la création du Modem, un parti au centre, affranchi du clivage gauche-droite. Cet affranchissement du Modem, elle le porte à partir de 2007. Avec conviction, elle croit en la capacité du centre à diriger le pays sans être dans l'ombre de la droite. C'est le rêve de François Bayrou qui sera finalement incarné par Emmanuel Macron en 2017. Emmanuel Macron soutenu par le Modem. Et voici ce que disait sur notre antenne Marielle de Sarnez entre les deux tours de cette présidentielle qui avait opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen.
Vous savez ce que c'est, la candidate du Front National? C'est un aller sans retour pour la France. C'est la sortie de l'euro, c'est la sortie de l'Europe, c'est l'affaiblissement de l'Europe, c'est la xénophobie. C'est quelqu'un qui prend les Français pour des gogos, qui leur raconte n'importe quoi, qui promet que demain on rasera gratis. Et moi, je voterai Emmanuel Macron parce que je veux sortir ce pays de la dépression.
Elle devient ensuite une très éphémère ministre des Affaires européennes dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Elle est alors rattrapée par une enquête préliminaire du parquet dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants des députés européens du Modem. Elle est contrainte de démissionner, tout comme François Bayrou à la justice. En décembre 2017, elle est mise en examen pour détournement de fonds publics. Depuis plusieurs mois, Marielle de Sarnez se faisait très discrète. Elle luttait contre une leucémie. La maladie l'aura finalement emportée hier à 69 ans.
Antoine Maret, merci beaucoup du service politique de France Culture. L'État sera-t-il condamné pour inaction climatique? Un recours, en tout cas, avait été déposé il y a 2 ans par 4 ONG, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam France et Notre Affaire à tous. Recours examiné cet après-midi par la justice devant le tribunal administratif de Paris. Si la décision est positive, cette action pourrait faire jurisprudence, ouvrant la voie à une justice climatique en France. Les ONG ont appelé cela l'affaire du siècle. Elles avaient déjà recueilli plus de 2 millions de signatures. Le tribunal administratif doit rendre sa décision d'ici la fin du mois.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Donald Trump sera visé par un procès en destitution d'ici fin janvier.
Oui, le deuxième en moins de 2 ans aux États-Unis. Cette fois pour incitation à la violence et ce après les événements au Capitole la semaine dernière. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a voté hier soir l'impeachment du président sortant. Et soulignons tout de même que 10 républicains ont soutenu cet acte, Franck Madvon.
On savait que la Chambre des représentants voterait la mise en accusation, mais on ne savait pas combien de républicains allaient l'approuver. Ils sont donc 10. Il y a un an, lors de l'affaire ukrainienne, aucun républicain n'avait rejoint les démocrates pour valider la procédure d'impeachment. Pour ces 10 élus, Donald Trump est pleinement responsable des violences au Capitole. Dan Newhouse représente l'État de Washington. Voici ce qu'il a déclaré à la Chambre.
Le président a prêté serment pour défendre la Constitution contre tous les ennemis, à l'étranger et sur notre sol. La semaine dernière, il y a eu une menace sur notre sol, au Capitole, et il n'a rien fait pour l'arrêter. C'est pourquoi, avec le cœur lourd, mais avec une détermination claire, je voterai oui à cette mise en accusation.
10 républicains qui approuvent la mise en accusation et beaucoup d'autres qui ont voté contre, mais qui n'ont pas épargné Donald Trump. Bien sûr, le président conserve de nombreux soutiens qui l'ont défendu avec ardeur. Le parti républicain est toutefois clairement divisé. Et les démocrates, eux, ont accablé Trump, qualifié de tyran, responsable d'une tentative de coup d'État. Il y aura donc maintenant un procès au Sénat qui devrait s'ouvrir après l'investiture de Joe Biden. Il faudra une majorité des 2/3 pour condamner Trump. 50 sièges pour chaque parti. Au moins 17 républicains doivent se joindre aux démocrates. Leur chef au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré hier qu'il n'avait pas encore pris de décision sur la destitution. Un nouveau feuilleton politique commence. Dans une atmosphère surréaliste, Washington est totalement bouclé. Des soldats dorment à même le sol au Capitole, transformé en forteresse.
Ces jours d'élection en Ouganda, présidentielle mouvementée entre le président sortant et un chanteur devenu député qui veut incarner le réveil de la jeunesse. Camille Magnard s'en faisait l'écho dans sa revue de presse internationale hier matin. Elle est à réécouter en podcast ou sur franceculture.fr. Ce matin, c'est en Centrafrique que nous allons, 24 heures après des tirs nourris à Bangui, la capitale. L'assaut de troupes rebelles a finalement échoué, repoussé par les soldats de l'ONU. De quoi réveiller toutefois les mauvais souvenirs de la guerre civile en 2013 en Centrafrique. Reportage ce matin auprès des habitants, c'est avec Charlotte Cossé.
Cette route qui mène à l'aéroport est normalement grouillante de monde, difficile d'y circuler habituellement. Eric est venu en fin de matinée, mais il ne sait pas quoi penser.
Tout juste là, le marché vient d'ouvrir. Tu vois que la situation sont bloquée, les taxis, motos aussi sont bloqués. Tu vois qu'il n'y a même pas le transport. Ils ne savaient même pas ce qui vient de passer ce matin-là.
Les boutiques sont ouvertes normalement?
Non, pas encore, les boutiques ne sont pas ouvertes. Tu vois, maintenant la situation est catastrophique. On n'est pas à l'aise.
Quelques rares commerçants ont osé sortir, comme Ornella. Elle vend des chenilles et du poulet grillé.
Depuis ce matin, il n'y a pas beaucoup de clients. J'ai ouvert parce que je n'ai pas le choix, je vis de ça. Si je ne viens pas tenir mon commerce, comment je vais faire pour nourrir mes enfants?
Et vous n'avez pas trop peur?
Non, je n'ai pas peur, il faut bien que je travaille. travaille pour ma famille.
L'employeur de Denise n'a pas ouvert son bureau hier matin. Elle fait quelques courses rapidement avant de rentrer chez elle.
Mais la situation est bloquée depuis le matin après coup de feu qu'on a entendu. Les gens ne bougent pas, les activités sont bloquées, donc on ne peut rien faire. On est très gênant, on ne sait pas ce qui va arriver dans les heures qui suivent.
À quelques mètres sur le tarmac de l'aéroport à Antonov, des blindés de la MINUSCA patrouillent. En 2013, lors des événements, cette route était quasiment impraticable à cause des combats.
Charlotte Cosset à Bangui pour France Culture. La météo à présent en France métropolitaine. De la neige est prévue sur le nord-est. Ailleurs, c'est de la pluie qui va tomber et le soleil qui va briller sur le quart sud-est du pays. Ce matin, il fait 2 degrés à Lille, 9 degrés à Paris et à Marseille. La maximale, elle est à Cherbourg ce matin, 11 degrés. Et Guillaume, je crois qu'il fait même bien plus chaud dans le studio de France Culture.
Et oui, parce qu'il y a une dame à côté de vous, il y a la directrice. Bonjour Sandrine Trainer.
Bonjour.
Vous êtes en violet, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ouais, ce 14 janvier?
Violet, n'est-ce pas? Écoutez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh ben oui, on va pas bouder notre joie du matin. Vous savez, une fois tous les deux mois, la question c'est, mais vous, auditrices, auditeurs, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous nous avez écoutés? Est-ce qu'on vous a donné envie de nous suivre? Et ce matin, nous avons eu donc les résultats d'audience des radios, de l'ensemble des radios pour les mois de novembre et décembre 2020. Et jamais, vous n'avez été aussi nombreux à nous écouter. Jamais, vous ne nous avez écoutés aussi longtemps. Vous êtes donc désormais 1 721 021, et on rajoute le 1, 1000 auditeurs à nous écouter chaque jour. Si c'est pas la démonstration de ce que peut le service public, si c'est pas la démonstration de ce que peut le travail, l'exigence, l'engagement d'un immense collectif centré autour de ce qui fait la particularité, la spécificité, je dirais l'unicité de l'offre de France Culture. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc je voudrais saluer vraiment très 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 chaleureusement l'ensemble des équipes qui, dans un contexte que l'on sait difficile, font cette radio merveilleuse jour après jour, et puis vous remercier, vous qui nous écoutez, qui nous encouragez, qui êtes là, qui nous donnez envie toujours de plus et de mieux faire. Merci de nous suivre ainsi. Donc dans le langage du métier, c'est 3.2 d'audience. C'est exactement le double d'il y a 10 ans. Donc voilà un média qui, en pariant sur les missions de service public, au cœur du service public, un service public de la radio qui va bien du reste pour toutes nos chaînes sœurs également. Donc c'est la joie à Radio France et c'est la grande joie à France Culture. Merci à vous.
Et puis notre avenir est tout tracé, hein. Plus de rires, plus de chansons, n'est-ce pas Sandrine Trainer, Clara Lecoq, Réal, pour poursuivre donc cette progression. Et en attendant, alors là c'est dans un avenir à très court terme, dans 30 minutes, nous retrouverons nos camarades habituels, Hervé Gardette pour sa transition, Géraldine Mosna-Savoie pour son carnet de philosophie et Arnaud Laporte qui évoquera ce à quoi pense un artiste. On va évoquer les 10 ans de la révolution tunisienne. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'une journaliste, Enda Chenaoui, et d'un professeur à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Amadi Redissi, et de Karim Bensmaïl, qui dirige la maison d'édition Cérès. Et puis un billet politique avec vous, Frédéric Seize. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et ce matin, il est question de l'organisation de l'État.
Oui, pour expliquer les ratés face à la crise sanitaire, les uns dénoncent la bureaucratie, les autres dénoncent la technocratie, peut-être la promesse d'un beau débat pour la présidentielle.